Bonsoir. Ce soir, émission différente. Et donc, deux musiques viendront enrichir nos échanges. Une choisie par mon invité et une par moi-même. Voilà la 12e émission de Qui suis-je ? 11 émissions déjà pour parler politique et société. Ces émissions, ainsi que mes posts sur Facebook, sont là pour exprimer des idées et participer très modestement au débat public. Le plus difficile, je m'en suis rendu compte, est de donner du sens à ces émissions. La toute première, avec Alexis Taubleguern, en avait beaucoup. Celle avec Rachel Marx, principale du Collège Vauban, pour parler d'antisémitisme et de transmission aux jeunes, en avait aussi. Mais, d'une certaine manière, ces 11 émissions étaient faites pour m'amener à celle-ci, à celle d'aujourd'hui. Car elle a, je pense, beaucoup de sens. Le sujet de ce soir est grave, intemporel. Vous l'avez pour beaucoup d'entre vous déjà vécu. Vécu est le bon mot. Ressenti dans votre âme et dans votre chair. Et pour le moins, vous y serez tous confrontés un jour, car la vie nous impose des épreuves. C'est un sujet qui parle de dignité, d'amour, d'abnégation, de féminisme aussi, de cruauté et aussi de politique. Cette émission est donc très différente. Le titre de l'émission est « Le crépuscule de la vie » ou « Comment passer de la vie à la mort ». Je m'expliquerai à la fin sur le mot « crépuscule » car il a une dimension poétique qui va bien avec le thème. Le thème est donc la fin de la vie, mais aussi comment nous traitons nos aînés, l'effort que consent la société vis-à-vis des anciens. Il y a 20 ans, il m'a touché au plus haut point. Mais seulement à l'époque, je ne me posais pas beaucoup de questions. J'y suis confronté encore et je salue, grâce à ce micro, Antoinette, Solène, Daniel, qui se reconnaîtront petites héroïnes de l'ombre. Cette émission a lieu grâce à une rencontre. Une femme croisée il y a 2 ans qui a donné une véritable leçon de vie à tous ceux qui ont l'infinie tragédie de voir un de ses proches partir. Cette invitée est là pour porter un témoignage personnel et rendre hommage aussi à sa maman, Josiane. Et j'en suis fier, vraiment fier de lui donner cette possibilité. Perdre un proche est toujours un drame, mais là, nous allons parler d'une expérience de vie où le crépuscule s'accompagne d'une maladie dégénérative absolument terrible. On va parler d'un vécu et aussi de questionnements qui accompagnent ce vécu. Questionnements intimes et aussi politiques, car la société française est encore une fois bien rétrograde et absolument pas à la hauteur de ses grands principes. Mon invité a donc accompagné sa maman, touchée par la terrible maladie de Charcot. Et elle l'a accompagnée quasiment seule, chez elle, à la maison, tout en s'occupant de ses jumeaux de 5 ans, de son travail d'architecte et de faire tourner le quotidien. J'ai parlé de leçons, car oui, accompagnée chaque jour, pratiquement chaque heure, chaque minute, pendant des mois, sans savoir combien de temps cela allait durer, entre les râles parfois, les gémissements, les espoirs aussi et les désespoirs, les enfants à rassurer toujours, accompagner donc un proche dans une déchéance si violente exige un courage, une volonté de faire, une abnégation et surtout une humanité qui manque si cruellement, du moins dans l'expression collective. Je disais que c'était aussi un sujet féminin, car je vais crier haut et fort que si pour un homme, un seul, qui eût été capable d'assumer toutes ces charges en même temps, alors 1000 femmes le font chaque jour. J'écris beaucoup sur la condition féminine, sur les injustices qui les touchent quotidiennement, sur la loi, la Bible, la Torah, le Coran, écrit par les hommes, pour les hommes. Mais là, nous avons un témoignage qui devrait nous obliger, nous, hommes, à reprendre une place plus humble. Je reçois donc, avec grand plaisir, Estelle Xis, pour parler de ce crépuscule de la vie. Bonjour, bonjour Estelle.
Bonjour Daniel.
Il y a deux traditions dans mon émission. Mm-hmm. La première est que je tutoie tous mes invités. Tu parles hébreu couramment. Je crois qu'en hébreu, le tutoiement...
Effectivement, oui. Et on tutoie tout le monde.
Et voilà.
On vous voit tout le monde.
Voilà. La deuxième tradition est que je demande à mon invité de dire le titre de l'émission, qui suis-je, et de se présenter. Estelle, voilà. C'est à toi.
Alors, qui suis-je? Bonsoir. Je suis une femme de 48 ans, architecte, mère de deux enfants de 5 ans, qui a vécu un peu partout. Voilà, juive errante, on va dire, entre Paris, Tel Aviv et Strasbourg. J'exerce donc mon métier d'architecte à la Pharmacopée, à l'EDQM, Conseil de l'Europe, et puis j'élève mes enfants ici. Voilà.
Tu es des architecte. Tu es pas de Strasbourg. Tu es né où?
Ah si. En fait, je suis née à Strasbourg.
Ah d'accord.
Et mes parents aussi étaient des errants. Ils sont partis sur Paris et puis moi après voilà j'ai fait mes études à Paris, exercé mon métier quelque peu à Paris, puis je me suis envolée vers Tel Aviv où j'ai vécu plus de 10 ans.
10 ans, d'accord.
Et avant de revenir ici, pour les raisons qu'on évoquera, principalement pour accompagner mes parents dans leur maladie, etc. Et voilà.
Ok. Et ta maman, donc, habitait Strasbourg?
Alors, ma maman habitait Strasbourg, Paris, Tel Aviv aussi. Okay. Eux aussi ont voyagé partout, okay. mes parents aussi.
Tu es donc juive et tu es inscrite à la communauté libérale.
Oui, à l'UJLS, oui.
Voilà, de Strasbourg.
Oui.
C'est un acte un peu militant d'être inscrite à la communauté libérale ou non, c'est une vraie...
Alors, je ne sais pas si c'est un acte militant, c'est un choix de judaïsme, qui est celui du judaïsme libéral, qui me correspond pour plein de raisons, sur leur ouverture au monde, sur leur ouverture à la pensée juive.
Au féminisme.
Aussi sur la condition et la place de la femme, puisque il y a des femmes rabbins, que la femme monte à la Torah, ce qui est une différence fondamentale.
Ta maman, en fait, quand tu as eu tes enfants, mm-hmm. On va pas trop en parler, mais tes enfants, la formule un petit peu maladroite que j'ai envie d'utiliser, tu les as eus toutes seules.
Oui, ah oui, oui.
Et ça a été, je crois, dans ta vie quand même, un premier combat que tu as mené, où tu as montré ta volonté, ta force... ton humanité aussi, je pense qu'il faut le dire.
Oui, donc ça c'est un combat plus personnel qui n'est pas forcément lié au thème de ce soir, mais effectivement pour des raisons physiques, j'ai pas pu avoir d'enfant, donc effectivement j'ai eu un long parcours, me suis retournée vers beaucoup de solutions jusqu'à cette solution où j'ai eu mes deux enfants toutes seules. Pas par choix, hein, pas par militantisme. Je ne suis pas une militante de la maternité en solo, mais ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est aussi important de rappeler que... Alors, peut-être moins en France, mais en tout cas, en Israël, il y en a beaucoup, beaucoup de mamans solo. Mais bon, c'est un autre thème.
Tout à fait. Et puis, est arrivé ce drame où ta maman qui t'aidait beaucoup pour aussi pour tes enfants, pour t'aider à élever tes enfants, a malheureusement attrapé la maladie de Charcot.
Ouais.
Et je voudrais juste te poser une première question. Pourrais-tu juste nous dire quelques mots sur la maladie de Charcot? Parce qu'on m'a dit que c'était des maladies dégénératives, la pire des maladies.
D'une part, je ne suis pas évidemment médecin, donc je ne suis pas une experte, mais donc la SLA, hein, donc la sclérose latérale amyotrophique, qui est appelée la maladie de Charcot, est effectivement une maladie dégénérative qui touche. Alors, de ce que j'ai compris, il y a deux options de la maladie. Et celle qu'a eue ma mère, c'est la plus rapide, celle qui touche d'abord le cerveau, qui s'attaque d'abord à la perte de la parole, ce qui est terrible de perdre la parole. Et puis il y a aussi tout doucement la perte du corps, hein, des muscles qui ne répondent plus. Et il y a une version qui commence par les muscles et qui dure un petit peu plus longtemps Si tant est qu'il y ait des statistiques, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est très variable. Oui, donc c'est une maladie. Je ne sais pas, tu as dit attraper, je ne pense pas qu'on l'attrape.
Oui.
Mais en fait, c'est une maladie. On ignore pourquoi les gens la développent. On sait qu'il y a une toute petite part génétique qui est assez anecdotique. Hein. Je crois que c'est de l'ordre de 5% ou 10% ou 5% des cas. Ce n'est pas le cas de ma maman. Et effectivement, cette maladie se déclare sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et actuellement, la médecine ne sait pas pourquoi elle se développe très vite chez certains patients, comme ça a été le cas pour ma mère, et où qu'elle dure parfois pendant 10 ans, 15 ans. Mmh. Voilà.
Et, tu as fait ce choix de garder ta maman à la maison et de ne pas la mettre à l'hôpital ou de ne pas la mettre dans un centre médicalisé. Alors, pourquoi ce choix, en fait ?
Alors, oui, j'ai fait ce choix. Enfin, c'était... La maladie évolue donc progressivement. En fait, quand on l'a diagnostiquée à ma mère, je pense que les symptômes étaient apparus préalablement. Et puis, en plus, il y a eu le Covid pendant 6 mois où on n'a rien pu faire. Donc, on a perdu du temps. Et le fait est que ma mère parlait de moins en moins bien, avait du mal à marcher. Donc, au début, c'était comme une évidence pour la soulager de la prendre chez moi. Et je me rappelle qu'on était partis tous en vacances en famille, qu'au retour, je lui ai dit, ben, viens à la maison, ce sera plus simple. Et puis en la voyant décliner, en la voyant... Et puis quand le diagnostic est tombé, déjà devant la cruauté et l'horreur du diagnostic, quand on sait qu'on a cette maladie, qu'on n'arrive plus à ça, on est coincé dans son corps. C'est une maladie où on ne parle pas, on ne bouge plus, et on finit bloqué dans son corps avec sa conscience intacte.
Voilà.
Et les cinq sens, important, les cinq sens restent intacts.
C'est ça la particularité de la maladie de Charcot.
Oui.
C'est que tous les sens restent intacts.
Intact.
Donc ça rajoute de la
douleur.
De la douleur.
Et de l'horreur.
Parce que de la cruauté.
Oui, la cruauté. Et en plus, alors après pour des raisons familiales aussi, mais c'est vrai que pour nous, pour moi et ma mère, on l'avait déjà évoqué, alors plus sur le ton de la plaisanterie. Ma mère disait souvent, quand on la remerciait parce qu'elle a fait tellement pour les enfants, elle disait bon, au moins tu ne me mettras pas en EHPAD. Et c'était une plaisanterie. Mais c'était une évidence. Et moi, j'ai vu ma propre grand-mère prendre mon arrière-grand-mère à la maison pendant 2-3 ans. J'ai vu mon oncle s'occuper aussi admirablement bien de ma grand-mère. Il ne l'a pas pris chez elle, mais c'est tout comme c'était en face. Et voilà, c'était la même chose. Donc, c'est des exemples familiaux aussi qui marquent. Et on va dire que notre éducation était comme ça.
Et est-ce qu'on peut parler quasiment d'un serment, que tu...
Alors moi je le ressentais comme ça. Maintenant, chacun est libre de le vivre différemment. Moi je le sentais un peu comme ça, un serment que j'avais fait à ma mère de ne jamais la laisser dans un EHPAD. On entend tellement de choses terribles et en plus l'actualité fait écho à tout ça sur les EHPAD. Et puis cette maladie étant ce qu'elle est, je ne me voyais pas la laisser sans qu'elle puisse m'exprimer ce qui se passe ou ce qui.
Voilà. Tu voyais ça comme un devoir. Hein.
Non, comme de l'amour, tout simplement. Pas comme un devoir, comme un acte d'amour. Quand on aime quelqu'un, on veut le meilleur pour cette personne et c'est ce que je voulais pour elle.
Ok. Et qu'est-ce que tu penses, en effet, de cette actualité ? Qu'est-ce que tu penses de...
Alors, c'est compliqué. Hein. Je ne taperai pas sur le dos des soignants et des gens dans les structures qui, à mon avis, sont complètement débordés, déjà trop mal payés, trop peu formés. Je pense que c'est sur la société en entier qu'il faut taper, c'est-à-dire
bien
que
sûr.
C'est à nous, toute société, de nous poser la question de ce qu'on veut pour nos aînés, de ce qui est juste, de ce qui est acceptable, de ce qui est humainement autorisé.
Voilà. Alors on va faire une pause. Je t'ai demandé de choisir une musique. Tu as choisi quoi, en fait ?
J'ai choisi Donna Donna, chantée par John Baez, qui est donc une chanson que, en fait, voilà, c'est un clin d'œil à ma maman. C'est la chanson qu'elle mettait à mon fils pour l'endormir. Hein, et c'est une berceuse yiddish et que John Baez a chanté en anglais. Et il y a un lien avec cette chanson, je pourrais l'expliquer par la suite. Il y a un lien entre la chanson et quelque chose qui m'est arrivé avec ma mère.
D'accord, on en parle après. John Baez.
Mmh. wears a cap with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna. Said the farmer, who told you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna. Calves are easily bound and slow, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna.
Voilà, alors tu parlais, Estelle, d'une anecdote par rapport à la musique.
Oui, parce que la chanson, donc cette chanson, je crois, parle d'un, je ne sais plus si c'est un veau ou enfin un petit animal qui part à l'abattoir. Et quand donc ma maman qui était à la maison, hein, donc on s'en occupait avec eux. Alors bon, tu disais pratiquement toute seule, c'est pas le cas. J'étais avec trois infirmières extraordinaires, hein, que je salue ici, Stéphanie, Afida et Marjorie, que j'embrasse, et puis surtout une médecin, enfin pas surtout à la même hauteur que les autres, une médecin extraordinaire, Eve Rosner, qui est une médecin et une femme extraordinaire, qui s'est occupée de ma mère avec une abnégation magnifique. Donc on était quand même tout ce pôle autour de ma maman. Et quand la situation a un peu dégénéré, qu'elle a dû partir, bon, c'était la fin, en soins palliatifs, parce qu'on n'arrivait plus à la soulager, ses douleurs, etc. Je lui ai dit, maman, même si elle ne pouvait plus s'exprimer, je lui ai dit, tu vas partir à l'hôpital pour qu'on te soulage en soins palliatifs. Elle s'est mise à pleurer, Et dans son regard, j'ai senti qu'elle savait que c'était son dernier séjour à l'hôpital. Et c'était un peu comme si elle partait à l'abattoir. Et moi, j'étais totalement démunie. C'est-à-dire, je n'ai pas su réagir à cette tristesse. J'étais moi-même très émue. Et c'est là que je me dis que notre société ne nous prépare pas à la mort. Notre société ne nous prépare pas à aborder des choses qui font partie pourtant de toute vie. Et on n'est pas préparé parce qu'on n'en parle jamais. Le tabou de la mort, il nous accompagne toute la vie sans qu'à aucun moment, ni enfant, ni adolescent, ni adulte, on puisse être préparé à en parler sereinement.
Je terminerai sur cette question-là. Peux-tu nous parler un peu de ton quotidien quand ta maman était à la maison? D'abord, j'ai une question. As-tu été Est-ce que les gens comprenaient autour de toi ? Est-ce que les gens au travail comprenaient ? Est-ce Alors, que les voisins comprenaient ? Est-ce que,
je vais dire quelque chose qui, j'espère, ne va heurter personne, mais il y a un aspect culturel dans le fait de prendre les aînés à la maison. Il y a des gens qui, culturellement, le comprenaient parce que c'est tout à fait normal. Et, oui. et mes voisins en faisaient partie. C'était une évidence qu'on ne laisse pas ses aînés hors de chez, enfin hors de sa maison. Et au travail aussi, j'ai eu beaucoup de bienveillance au travail et d'accompagnement et de compréhension de mes collègues, de tout le monde, vraiment. Et on va dire que oui, les gens comprenaient. Il y avait des gens souvent qui me disaient quel courage, et moi je ne comprenais pas ce mot parce que pour moi il y a pas de courage.
C'est une évidence, quoi.
C'est une évidence. On a, voilà, c'est une évidence.
Est-ce que le droit du travail permet d'avoir des, par exemple, des RTT ou des aides, d'une, voilà, parce que après tout.
Il y a deux options. En fait, c'est moi je me suis mise à 90% parce que je ne pouvais pas faire plus, j'aurais aimé me mettre à 50%. Ouais. Mais en fait, la seule chose qui est possible, c'est que soit on est aidant et à temps complet, et là effectivement il y a un petit dédommagement qui est possible, etc. Mais si on est juste à 90%, il n'y a rien qui est prévu, il n'y a rien qui est prévu pour pouvoir passer à 50% pour pouvoir compenser, rien n'est absolument prévu pour ça parce que, comme on en parlait tout à l'heure, la mort n'existe pas. Elle est taboue, donc si elle n'existe pas, on ne prévoit rien pour l'aménagement des personnes qui pourraient s'occuper des aînés.
Il y a autre chose que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est en fait le message que tu as transmis à tes enfants à travers cette expérience. Ils savent, eux, maintenant, ce qu'est la maladie, ce qu'est de partir. Et j'ai une seule question. Est-ce que tu penses qu'ils ne sont pas plus forts que les autres ?
Ben voilà, on l'entend justement, ma fille à côté de moi, que j'ai lui emmené.
Bonjour Clara.
En fait, ça a été une grande réflexion parce que c'était quand même... Voilà, j'avais un côté qui culpabilisait d'infliger ça à mes enfants parce que c'était un spectacle compliqué. D'un autre côté, c'est leur grand-mère adorée, donc ils n'auraient pas voulu ne plus la voir tous les jours, surtout dans une période de Covid où les visites sont ce qu'elles sont. Mais est-ce que ça les rend plus forts ? Sûrement, pour plus tard. C'est un exemple pour plus tard. C'est un investissement pour plus tard.
Indéniablement.
Mais par contre, effectivement, c'était quelque chose à prendre en compte et c'était une difficulté quand même à affronter, une difficulté de plus parce qu'ils sont petits. Voilà, parce qu'ils sont petits. Voilà.
Bien sûr. En tout cas, c'est un magnifique témoignage. Je te remercie vraiment, vraiment, d'être venu parler de ce de ta maman et de cette de cette histoire qui, à mon avis, va faire réfléchir beaucoup de gens. Et ce que je retiens, c'est que dans ta famille, en fait, différentes générations avaient déjà, en fait, cette habitude de garder leurs aînés avec eux. Mmh. Et je crois que cela donne à réfléchir sur notre rôle à nous par rapport, encore une fois, à nos enfants, à ce qu'on doit leur transmettre pour les générations suivantes.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que... Alors évidemment, il n'est pas question de jeter la bière sur personne. Je veux dire, c'est pas toujours possible.
On ne juge, personne, évidemment.
Mais c'est vrai que parfois on se pose des faux problèmes parce que, par exemple, la taille du logement, c'est un faux problème parce que voilà, ma maman est restée chez moi finalement même pas une petite année. Et qu'est-ce que ça peut faire de dormir dans le salon si qu'est-ce que ça peut faire pour pouvoir passer du temps avec avec les gens qu'on aime. Mais maintenant c'est compliqué parce que tout le monde on est dans une société où tout est beaucoup plus dur. On est éloignés les uns des autres. Il se trouve que dans notre famille aussi, on va dire, on se déplace en tribu. Voilà, quand on part d'un pays, on part tous dans un autre pays. Donc quand on revient tous. Donc voilà, ça facilite les choses aussi.
C'est vrai que tu parles de notre société actuelle. Je veux juste rappeler cet épisode absolument terrible de la canicule de 2003.
Où
depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la pire catastrophe humaine que nous avons vécue. En Europe, 70 000 morts, que des personnes âgées. Et en France, 15 000 personnes âgées. Et moi, il m'a le plus marqué de cet épisode, déjà 15 000, c'est un nombre absolument, absolument terrible. C'est deux choses. La première, c'est que ça a permis de montrer l'isolement terrible de toutes les personnes âgées. Ça a eu des impacts sur la gestion des services sociaux. On se demandait à quoi servaient les services sociaux qui s'occupaient des aînés précédemment, qui ont été obligés, à cause de cette canicule, d'aller faire des pointages rue par rue, immeuble par immeuble, pour savoir où étaient situées les personnes isolées, les personnes âgées isolées. Ça, déjà, première chose incroyable. Deuxième chose incroyable, on est beaucoup dans une époque où on aime bien faire des hommages, faire des cérémonies. Mais suite à cette catastrophe, la société française avait tellement honte de elle-même qu'elle n'a pas été capable de marquer cet événement par un hommage national. Mmh. Il n'y a pas eu d'hommage national. Je ne comprends pas pourquoi au mois d'août, en plein milieu des grandes vacances scolaires, quand tout le monde est à la plage, on ne fait pas une journée de commémoration pour ces 15 000 victimes, et plutôt, non pas pour les 15 000 victimes, mais pour les personnes âgées, isolées, qui sont, elles, pas en vacances, pas au bord de la plage. Et je trouve cela totalement sidérant. Je ne sais pas ce que toi, oui, ça t'inspire. Mais...
Je ne suis pas persuadée qu'elles soient moins isolées aujourd'hui. Je le souhaite, hein, même s'il y a eu ce pointage, je ne suis pas sûre qu'on s'occupe davantage d'elles. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est quelque chose qui m'avait frappé quand je vivais en Israël, hein, je vivais à Tel Aviv, c'est qu'on avait une vieille dame... au rez-de-chaussée, qui était vraiment plus âgé que l'ensemble des gens de l'immeuble. Et en fait, c'était une évidence, c'était collectif. Tout le monde frappait à sa porte tout le temps. Comment ça va? Vous avez besoin d'une course? Ce qui fait que si on ne voyait pas cette personne une demi-journée, on n'attendait pas 5 jours. Voilà. On attendait une demi-journée, les gens s'inquiétaient. Et c'était quand même assez généralisé. C'est peut-être aussi notre société qui ne nous apprend pas ça. En Israël, on apprend... Il y a plein de choses qu'on apprend en Israël à l'école, comme on va dire l'empathie, le bénévolat sur les personnes handicapées, sur les personnes âgées, sur les survivants de la Shoah. Et ça manque cruellement dans notre système d'éducation en France.
En France, oui. En fait, je pense que la crise climatique de 2003, et après ce que nous constatons, à mon avis, et malheureusement ce qu'on constate avec cette terrible affaire des EHPAD privés, c'est une crise, à mon avis, civilisationnelle, véritablement. Je pense qu'on a vraiment là une vraie remise en question de nous-mêmes. C'est pour cela que d'ailleurs, on a du mal, à mon avis, à avancer sur ces questions-là. J'ai envie de faire aussi un... Non, tu as fait dans nos discussions avant de préparer l'émission. En préparant l'émission, on peut faire aussi un rapport avec les enfants handicapés. La manière dont la France, en fait, les traite, dans les écoles, dans l'accompagnement après.
Et pas seulement les enfants, les adultes handicapés aussi.
Oui.
Voilà. Alors, il y a le handicap physique, il y a le handicap mental. Et j'ai envie de dire, au-delà de ça, parce que alors, c'est vrai qu'on parle un petit peu plus de l'autisme ces dernières années. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont intégrés à l'école et que la vie leur est facilitée, loin de là. Mais il y a aussi, moi, je suis frappée de voir que les maladies mentales ne sont pas reconnues aujourd'hui. Hein. Une personne qui sera schizophrène sera vraiment traitée comme une personne folle. Enfin, c'est extrêmement péjoratif. Et ça n'est pas du tout pris en compte. Et voilà. Et le handicap est invisible en France. On les cache. Et il suffit d'aller dans d'autres pays. Alors, Israël, effectivement, où c'est flagrant, parce qu'on se met à une terrasse de café, on a absolument toute la société dans toute... voilà, on va avoir quelqu'un en fauteuil roulant, quelqu'un, un enfant autiste, un enfant... un adulte handicapé. Par exemple, dans tous les supermarchés ou dans beaucoup d'endroits... Et je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est une loi. Ils engagent des personnes à déficience intellectuelle qui sont soit à l'accueil, soit chômeurs, etc. Mais c'est juste génial parce qu'on les côtoie tous les jours et que les enfants, depuis leur tendre enfance, les côtoient.
Alors, pour conclure, parce que le temps passe toujours trop vite, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de l'hospitalisation, il y a à la fin... toujours la mort, ce rendez-vous inéluctable. Je suis sûr que je suis pour que nous puissions choisir la manière de partir. Alors c'est un témoignage un peu personnel que je vais faire, de programmer sa mort. Je pense que cela permet ainsi d'en faire un rendez-vous de vérité. Je comprends que cela heurte les consciences, mais pourquoi s'acharner dans le cadre d'une maladie dégénérative alors que nous avons la chance d'avoir la possibilité de connaître le diagnostic et donc de connaître l'issue? Qu'est-ce que tu penses de cette question-là?
Je suis assez d'accord. Je pense même que si ma mère avait pu le faire, il se trouve qu'elle n'a pas pu le faire, c'est arrivé trop vite. Je me demande si elle n'aurait pas fait ce choix d'aller, de s'orienter vers certains pays où on peut le faire.
Bien sûr, la Suisse, la Belgique.
En tout cas, je pense que mourir avec dignité devrait effectivement être un droit. Et quel intérêt quand on sait... On a eu ces discussions avec les gens des soins palliatifs qui sont des gens extraordinaires et qui en ont conscience, même si eux, leur mission, c'est de maintenir le plus longtemps possible en vie. Mais quel intérêt de rester
Moi,
en vie.
Moi, je dirais plus que leur mission, c'est leur devoir.
De maintenir en vie.
Oui, c'est leur devoir. C'est-à-dire qu'on leur impose.
Oui.
C'est une obligation.
Oui.
Mais si on leur demandait leur intime conviction,
oui,
elle serait totalement différente. Hein.
Absolument.
Et d'ailleurs, ce sont des gens qui ont une humanité
hors du commun.
Hors du commun. Donc on ne peut pas les accuser de meurtre ou parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui.
Ouais.
Non, c'est des gens qui sont d'une humanité qui savent ce que c'est que de souffrir.
Ouais.
Et voilà. Il me semble en effet que l'homme essaye en fait de retarder l'inéluctable par vanité en fait. De la même manière que l'homme a créé Dieu, je vais me faire taper sur les doigts, il ne pouvait supporter son ignorance. Et donc, il a créé Dieu. Il se sent, face à la maladie, démuni. Et face au dernier crépuscule, il le repousse le plus loin possible dans une fuite folle, cruelle, juste pour ne pas accepter son impuissance. Je dirais même que si je me place d'un côté spirituel, on peut penser que si une personne est atteinte d'une maladie dégénérative, c'est que Dieu l'a peut-être décidé. Et que Dieu a décidé de le rappeler à lui. Et que le fait de s'acharner, c'est même aller contre la volonté divine. Et ça m'a beaucoup interpellé. J'ai déjà lancé là-dessus quelques autorités religieuses sur cette question-là. Je trouve qu'il y a, pour moi, une vraie contradiction, en fait.
Oui, oui. Bon, là, ça vaudrait le coup, effectivement, d'inviter un rabbin à venir discuter de ça.
Alors, j'ai invité l'évêque. J'ai invité l'évêque.
Ah, très bien.
Hein. Voilà,
un rabbin, un évêque, un imam,
ouais.
Peut-être.
Non, mais là, j'ai invité l'évêque.
À débattre autour de ça.
J'ai invité l'évêque et j'ai eu d'abord un accord, puis un gentil refus pour me dire plus tard. Donc, ouais. Je vais encore un peu espérer, mais on
ça
verra
reste
bien.
À bout. Voilà, ça reste à bout.
Bien sûr. Alors, nous avons peur, je vais terminer là-dessus, nous avons peur de la mort, évidemment, et moi le premier, comme on a peur du handicap, on a peur de la vieillesse, on a peur de la déchéance. Ces questions sont taboues et reflètent le rapport que nous avons collectivement avec la vérité. Je ne vais porter aucun jugement, évidemment, mais je profiterai de ce sujet pour pousser un cri. La cruauté, c'est quoi, en fait ? C'est être allongé des centaines d'heures, impuissant. C'est se tenir la tête, ne plus supporter le temps qui passe si lentement, vouloir parler, lire, voir, s'exprimer et être là, interdit comme dans une prison. Et le plus dingue dans l'histoire, c'est que chaque journée passée est prise comme une victoire. Alors que le malade, lui, souffre et souffre. Vous en doutez ? Mais regardez juste leur regard, voyons. C'est insupportable. Tout est dans leur regard qui reflète tout leur silence. Pour moi, chaque jour gagné sur la maladie est une victoire de la cruauté. Alors, il y a ce mot magique qui permet de cacher toutes ces lâchetés, en fait. Ce mot, il est terrible. C'est l'espoir. Alors, pour terminer, parlons espoir. L'espoir que je puisse, moi, choisir ma mort et décider de ne pas souffrir si je devais avoir une maladie dégénérative. C'est un avis intime, personnel, mais c'est un avis de citoyen libre. Quel serait le tien ?
Ah, bah moi, pour avoir vu ce que j'ai vu, puis j'avais vu mon papa souffrir auparavant aussi également, bah bien sûr, j'aimerais. D'ailleurs, je pense que si je devais l'apprendre suffisamment tôt, je m'organiserais comme on peut le faire aujourd'hui dans certaines contrées. Absolument.
Après avoir vu mon père, mon beau-père, ma mère un petit peu, je réclame en effet le droit de devenir suisse ou belge pour choisir ma mort. S'il advenait que je sois touché, donc, je demanderais que l'on programme la date de mon crépuscule, que l'on convie ma famille, mes amis, non pas pour mon enterrement, mais pour fêter mon départ. Comme le chante Brel, de manière si juste et si extraordinaire, je convierais tout le monde pour un dernier repas. Et Estelle, toi aussi.
Merci.
Merci beaucoup Estelle, vraiment c'était un moment très très chouette. La parole pour terminer cette émission est à Jacques Brel qui,
très
j'espère,
bien.
Arrivera à convaincre le législateur et les cultes.
Il y a du travail.
Bonne soirée et bon appétit.
À mon dernier repas, je veux voir mes frères et mes chiens et mes chats et le bord de la mer. À mon dernier repas, je veux voir mes voisins et puis quelques Chinois en guise de cousins. Et je veux qu'on y boive en plus du vin de messe, de ce vin si joli qu'on buvait en Arbois. Je veux qu'on y dévore après quelques soutanes une poule faisane venue du Périgord. Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline voir les arbres dormir en refermant leurs bras. Et puis je veux encore lancer des pierres au ciel en criant « Dieu est mort » une dernière fois. À mon dernier repas, je veux voir mon âne, mes poules et mes oies, mes vaches et mes femmes. À mon dernier repas, je veux voir ces drôlesses dont je fus maître et roi ou qui furent mes maîtresses. Quand j'aurai dans la panse de quoi noyer la terre, je briserai mon verre pour faire le silence. Et chanterai à tue-tête à la mort qui s'avance les paillards de romance qui font peur aux nonnettes. Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline voir le soir qui chemine lentement vers la plaine. Et là, debout encore, j'insulterai les bourgeois sans crainte et sans remords une dernière fois. Après mon dernier pas, je veux que l'on s'en aille, qu'on finisse ripaille ailleurs que sous mon toit. Après mon dernier pas, je veux que l'on m'installe assis seul comme un roi accueillant ses vestales. Dans ma pipe, je brûlerai mes souvenirs d'enfance, mes rêves inachevés, mes restes d'espérance. Et je ne garderai pour habiller mon âme que l'idée d'un rosier et qu'un prénom de femme. Puis je regarderai le haut de ma colline qui danse, qui se devine, qui finit par sombrer. Et dans l'odeur des fleurs qui bientôt s'éteindra, je sais que j'aurai peur une dernière fois.